Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé sur RMC Story, canal 23. Et en tout cas, on est très heureux d'être avec vous durant ces 3 heures de direct avec Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Rémi qui va se faire un plaisir de lire tous les messages que vous envoyez sur l'appli Direct Studio. On est également avec le président du mouvement des chômeurs et des précaires, Pierre-Édouard Magnon. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
La journaliste indépendante de Dijon, Emmanuel Dancourt. Bonjour Emmanuel.
Salut Estelle, salut tout le monde.
Et notre journaliste et écrivain, Fred Hermel. Bonjour Fred.
Salut Estelle.
Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, Emmanuel Macron qui souhaite envoyer des jeunes dealers en internat pour les éloigner des trafics de drogue. Bonne ou mauvaise idée, on vous attend au 32-16. On parlera à midi et demi d'un projet de création d'un golf qui fait polémique dans les Pyrénées-Orientales, une région touchée par la sécheresse. Est-ce qu'il faut arrêter de construire des nouveaux golfs en France? À 13h, la pollution qui baisse dans les grandes villes. Faut-il abandonner les ZFE pour les véhicules critères 3, les laisser rouler tranquillement? À 14h, deux femmes expulsées d'un avion néo-zélandais car elles étaient obèses et prenaient trop de place. Faut-il faire payer un supplément pour les personnes en surpoids? Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso. On va parler de la folie des colis mystères. Vous savez, on les trouve sur Internet ou encore sur les marchés. Mais est-ce un bon plan, ces colis mystères, ou une arnaque? J'ai bien une petite idée sur la question. Et puis, en tout cas, ce qui n'est pas une arnaque, Rémi, ce sont ces deux places qu'on vous offre pour PSG Barcelone.
Oui, le mercredi 10 avril prochain, le PSG va en effet affronter le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. La visite des studios et la rencontre des équipes avant ce match. Ensuite, vous vous rendrez au Parc des Princes pour assister à PSG FC Barcelone. Vous revenez ensuite dans nos studios pour, cette fois, assister au débrief du match dans l'After Foot. Dès que vous entendez ce signal, qui peut tomber à tout moment, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16, PSG par SMS au 732-16 et vous inscrire. Vos places pour PSG FC Barcelone, elles se gagnent uniquement sur RMC.
RMC Estelle Midi.
Mais vous êtes sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Hier, le président de la République a annoncé vouloir porter un coup d'arrêt au trafic de drogue dans le cadre des opérations Place Net XXL. Il a également évoqué la mise en place de nouveaux dispositifs pour les familles de dealers et les mineurs impliqués dans les trafics. Écoutez tout de suite le président de la République.
Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté. Rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres et qui sont aussi des victimes de ces trafics. Il y a des cas où vous avez des familles, souvent d'ailleurs des mamans seules qui sont totalement débordées. Là, il faut les aider, les accompagner. Mais il faut que les jeunes qui sont dans ces situations, parfois, on les sorte aussi du territoire, qu'on puisse les mettre dans des systèmes éducatifs adaptés, peut-être les mettre en internat pendant 6 ans, pendant une année scolaire. Mais qu'on aide de manière rigoureuse ces familles.
Rémi Barré, envoyer les dealers en internat, c'est vrai que c'est nouveau. Hein. Aujourd'hui, quels sont les dispositifs mis en place pour les jeunes délinquants?
Pour l'heure, ce qui existe, ce sont les centres éducatifs fermés. Ultime étape avant la case prison. Créé en 2002, il y en a aujourd'hui 54 en France, accueillant chacun une dizaine de mineurs. Problème, d'après un rapport de la Cour des comptes dévoilé en octobre dernier, donc c'est tout récent, hein, plus de 20 ans après leur création, l'efficacité de ces centres éducatifs fermés est loin d'être démontrée. À tel point que la Cour des comptes conseille de marquer une pause dans leur mise en place, en cause donc, selon la Cour des comptes, la faiblesse des études relatives à leur efficacité, on ne sait pas si c'est efficace, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour encadrer ces jeunes mineurs, ou encore les problèmes rencontrés dans leur fonctionnement. La Cour révèle même que les données relatives au coût d'une journée passée dans un centre éducatif fermé par pensionnaire, eh bien, elles ne sont pas connues avec précision. On estime que c'est entre 570 et 700 euros par pensionnaire. Et par jour, ça c'est ce que dit le ministère de la Justice. Et quand Emmanuel Macron évoque hier à Marseille, on vient d'entendre la piste de placement en internat pour les jeunes impliqués dans les trafics de drogue, il n'apporte pas plus de précision, parlant juste d'une année scolaire en internat comme possible solution pour couper ces jeunes de leur milieu.
Alors, faut-il envoyer les dealers mineurs en internat? Voilà, je vais faire de gros yeux. Pierre-Edouard, je sens que ça vous plaît pas, cette idée.
Bah, tiens, en fait, ça
rentre. Faut essayer, vous voyez.
Oui, on peut aussi essayer de les envoyer à la plage, on l'a jamais fait. Je suis pas sûr que ça rentrerait beaucoup de succès. Non, d'abord, je trouve que c'est une image épouvantable parce qu'on renvoie l'image de l'internat à l'espèce de pension du 19e épouvantable, une prison,
maison
de redressement. Si t'es pas sage, je t'enverrai en pension, disait ma grand-mère.
Les maisons de redressement.
Donc, oui, ou alors les maisons de redressement. Enfin, je dis d'abord, on renvoie une image, ce qui est pas très sympa pour les milliers d'élèves qui, eux, sont en internat parce qu'ils suivent leurs études en internat ou parce qu'ils habitent loin ou parce que certaines formations prévoient effectivement une présence permanente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que les centres, c'est intéressant ce que vient de nous dire Rémi, les centres éducatifs fermés qui, normalement, sont prévus pour accueillir de jeunes délinquants avec théoriquement du personnel, même s'il en manque, etc. Si eux n'y arrivent pas, je vois mal comment dans des internats classiques avec des bons vieux maîtres d'internat, surveillants d'externat, et des profs, enfin, le classique, je vois pas du tout comment on peut accompagner ces gamins. Et puis surtout, moi, j'entends ce que dit Emmanuel Macron, mais enfin, le trafic de drogue, il faut d'abord aussi l'attaquer à la source, parce que tant que la source sera là, avec des quantités de drogue, et surtout des quantités d'argent absolument hallucinantes, on entendait, je crois, tout à l'heure, le témoignage, 6000 euros par mois pour garder de la drogue dans un coin de son logement, vous imaginez bien que aucune activité économique peut proposer des choses pareilles. Et donc, tant qu'on ne tarira pas la source, on peut sortir un certain nombre de gamins de ce milieu, et en soi, personne ne va répondre, mais il y en aura nécessairement d'autres, enfin, on s'en sortira pas. Il faut attaquer le trafic de drogue à la source. Après, les gens qui sont hors la loi, des dealers doivent être sanctionnés puisqu'ils contreviennent à la loi, il n'y a pas de débat là-dessus.
Mais aller en internat, c'est pas une sanction.
Mais en plus, moi, mon problème, c'est qu'on on ramène l'internat à la sanction. Ce que en termes d'image, je trouve ça absolument épouvantable. Et je répète, c'est pas en envoyant des gamins dans des internats. Alors, s'ils sont de Marseille, on va les envoyer où? À Lille, à Strasbourg ou à Brest? Je vois pas ce que ça va changer. Enfin, si, ils vont peut-être développer leur commerce ailleurs.
On a vu, c'est à la campagne. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est l'idée. Et tu as des très bons internats à la campagne.
Si on dit qu'on va l'emmener dans les internats qu'ils ont, des délinquants, à mon avis, on va rigoler, on va avoir quelques manifs, on en reparle dans 15 jours.
Parce que c'est ça aussi le problème, Emmanuel Dincourt, c'est les internats classiques. Le personnel n'est pas forcément formé à ça, quoi.
Mais merci de le dire. Merci de le dire. Alors, je suis complètement alignée avec tout ce que tu as dit, Pierre-Edouard, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, on n'arrive déjà pas à trouver de prof de maths. On n'arrive déjà pas à trouver du personnel pour l'éducation nationale. Et alors, là, on va leur ramener des gamins qui demandent un accompagnement très particulier pour lesquels les internats ne sont pas forcément formés. Encore faudrait-il qu'il y ait de la place en internat. Pour moi, c'est pas du tout la solution. Et je suis complètement d'accord avec toi, Pierre-Edouard, quand tu parles d'anticipation, de prévention. En fait, les enfants, parce qu'on parle d'enfants, souvent, ils rentrent dans la délinquance au moment où ils rentrent en sixième. C'est l'entrée en collège qui est souvent le marqueur.
Donc, quand c'est jeune, c'est 10 besoin. Ans.
Ouais, bah oui, mais tu sais, il y en a qui sont déjà des mules. Donc, ceux qui transportent la drogue, il y a ceux dont les appartements servent de nourrice, comme on dit. Donc là, on est plus sur stockage. Et c'est même les enfants. Les parents ne sont pas forcément au courant. Et en fait, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les jeunes, voire même les très jeunes, s'engagent dans les réseaux de trafic de drogue? Pourquoi ils s'y maintiennent et pourquoi ils arrivent à en sortir à temps, c'est-à-dire avant toute interpellation et toute incarcération? Et en fait, tout ça est plurifactoriel, bien évidemment. On parle d'argent facile, mais il faut savoir que quand on est mule ou nourrice, on n'est pas très très bien payé.
C'est plutôt guetteur que mule. Hein, parce que mule, c'est quelqu'un qui transporte. Donc,
le premier,
c'est assez rare que les gamins de 10 ans fassent ça. C'est surtout
en général,
guetteur.
Tu commences par guetteur. C'est vrai que tu commences par les petites choses un petit peu faciles, et puis tu montes en hiérarchie. Et en fait, il y a cette histoire d'argent malgré tout qui permet de payer une facture d'électricité, une amende SNCF, un loyer, d'aider les parents. Et il y a cette façon d'intégrer une société aussi, c'est une sorte de revanche aussi. Tu intègres une société, tu vas monter en grade, il y a des codes, il y a un certain honneur, il y a des valeurs.
Une fois qu'on a dit ça,
l'internat n'est pas la solution. L'internat n'est pas la solution parce qu'on va faire quoi? Déplacer le problème? On va, en plus, ça ne va pas le régler. En fait, ce que j'entends dans ce que dit le président, c'est il faut changer leurs paramètres. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais à mon avis, ça se fait sur le terrain, parce que quand tu rentres de l'internat, tu vas où? Tu rentres à la maison, en fait.
Le week-end, tu vas
chez maman, et le week-end, tu rentres chez toi.
Ça, tu vas chercher ta drogue et tu la ramènes à l'internat lundi.
Voilà.
C'est formidable.
C'est pas une solution. On est
développe
d'accord.
Le commerce. Ouais.
Mais quand même, Fred Hermel, on peut se dire, voilà, le président de la République tente des choses. Peut pas toujours dire, c'est pas assez. Voilà. Là, je dis pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas, on peut aussi se dire que, il tente, quoi.
Ouais, et franchement, l'homme de gauche que je suis, malgré ce qu'on dit, mais ces gamins sont pas perdus encore. Ils le seront dans 2-3 ans. Mais pas pour l'instant. Mais vraiment, j'y crois vraiment. Je pense qu'à 12-13 ans, tu peux encore revenir dans la société.
Évidemment.
À 20 ans, quand tu gagnes 4000 balles par mois, c'est mort. Et alors, sur les chiffres, ils sont incroyables. C'est des chiffres que personne ne gagne. Je suis désolé. Alors, on remet tout ça. Je veux dire, quand t'es en, je veux dire, même si c'est 50 balles par jour.
Ouais.
Mais non, mais même Getter. Mais même Getter. Qu'est-ce que t'as comme argent à 11 ans, normalement?
Plus que tes parents.
T'as 10 euros par mois ou 20 euros par mois d'argent de poche. Et là, on t'en propose 50 par jour. Donc, là, c'est des sommes colossales. Colossales pour des enfants. Donc, là, c'est l'une des bases. Mais vraiment, il y a des gamins qu'on peut sauver encore. Et l'idée de les séparer de leur entourage toxique, et je pense même que, parce qu'on parle beaucoup de familles monoparentales qui sont en général des mères avec des enfants, je pense que ça va être un déchirement pour les mères, mais que beaucoup de gens, beaucoup de femmes disent, au moins il va être surveillé, au moins il va être en dehors de ces voyous, de ces racailles qui profitent de lui. Parce que ce sont d'abord des victimes. Ça, j'en suis persuadé. À cet âge-là, hein, à partir de 16, 17 ans, je pense que là, autre chose. Mais vraiment, les très jeunes gamins, 10, 11, 12, 13 ans. Et donc, le système d'internat, alors moi, je me trompais, j'étais persuadé que c'était des internats spéciaux.
Ah ben non, on va pas créer encore c'est pas possible, à un moment on a plus d'argent.
Alors là, se pose la question du... Après, la question c'est de savoir, si tu mets sur un internat où il y a 100 gamins, tu mets 80 gamins qui viennent de là, ça va pas.
Ça n'arrive pas.
Tu en mets un ou deux sur 100.
Tu vas en mettre 5, ouais.
Ouais, mais toi, 5 sur 100, c'est aussi une question de répartition, de pouvoir être dans un univers où on ne vole pas, où on ne deal pas... Et quelque part, les gamins, ils peuvent se sentir... Voilà, voir d'autres choses.
Mais si tu rentres chez toi le week-end, en fait, c'est mort. Tu rentres chez toi le week-end, tu retrouves ton entourage.
Peut-être qu'on pourrait créer, une fois par mois et qu'il y ait spécialement qu'il reste à l'internat le week-end avec des cours de soutien, avec du sport, avec des trucs. Mmh. Mais sincèrement, je pense que ces gars, autant je suis persuadé qu'il faut de la vraie répression pour les vrais délinquants, autant les gamins qu'on peut sauver, on peut essayer de faire quelque chose.
Pierre-Edouard, et ils coûteront moins cher à la société.
Ah, mais ça, c'est clair.
Tu évoques la réinvention de la mixité. Mais du coup, la mixité, on ne peut pas la réinventer que du lundi matin au vendredi soir pour 5 dans un internat.
Mais ça peut aider déjà.
C'est bien le problème de la mixité sociale, et sociale au sens le plus large du mot, la mixité de la société. Et tout ce qu'on voit là, ce sont aussi des conséquences de l'arrêt de cette mixité où tu as des quartiers qui sont de véritables ghettos et des ghettos multi-types. C'est des ghettos sociaux, c'est des ghettos religieux, c'est des ghettos ethniques, c'est des ghettos de chômage,
et en plus,
des ghettos
de tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes.
Et tout ça s'empile. Et évidemment, les mecs qui vendent de la rue, qu'ils arrivent, ils ont de l'argent comme ça, c'est les rois du pétrole, c'est le cas de le dire.
On a Hélin qui nous appelle du Vaucluse et qui est chef cuisinier. Bonjour Hélin. Hélin ou Héloun, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour.
C'est Hélin,
Hélin, super. Bah, et c'est très rare comme prénom. Je crois que c'est la première fois qu'on a un Hélin en 3 ans d'Estelle Midi. Hélin, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, Emmanuel Macron, de vouloir envoyer des jeunes dealers en internat?
En fait, non. Comme je disais au standard, en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Mais comme la prison, en fait, la prison comme l'internat, ça va être un test pour eux. En fait, qu'on passe par la case prison ou l'internat, c'est l'important, c'est de garder ses nerfs et de pas de balancer personne. Donc, du moment où ils vont pas cracher les noms, ils vont grandir dans la hiérarchie. Donc, comme vous dites, au départ, on commence guetteur, après on échouffe, après on est dealer, puis après, on va être nourrice, on va commencer à avoir du stock, puis là, on va commencer à négocier, puis on va ramener de l'argent, et après, on va négocier encore plus gros et on va faire travailler les autres. En fait, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Donc le final, en fait, c'est pas ce qu'on va priver, parce que là on est en train d'essayer de tuer l'otage, mais c'est pas ça. Il faut légaliser. C'est vraiment là maintenant, il faut vraiment mettre le truc sur la table. Et il faut dire voilà, il faut légaliser, parce que on le sait bien, on a légalisé le médicinal. Donc il y a moins de clients. Donc tous les anciens des années 80 comme moi j'ai été, on va plus chercher dans les cités. On n'a pas envie de se faire braquer à la Castellane ou n'importe où. On n'a pas envie d'y aller. Donc, on va chercher dans les magasins. On peut même dans les tabacs maintenant, on achète à 3 euros le pétard. C'est la médicinale, mais c'est pas grave. Nous, on veut le goût. On a fini de vouloir se défoncer la gueule. Donc, on est là pour le goût.
Mais après, Hélin, là, c'est juste sur l'internat. Ces gamins, on a un peu tout essayé. Rémi le rappelait, les centres éducatifs fermés, ça marche pas. Mais en même temps, vous mettez que des gamins qui sont pareils, qui ont vécu la même...
Là, il y a une mixité. On a du mal à avoir on a du mal.
Ils sont encore moins bien formés en internat.
Dans des centres de loisirs pour des enfants qui sont tranquilles. Oui. Est-ce que là, pour des enfants qui vont être difficiles, on va pouvoir avoir le personnel pour les encadrer, connaissances pour les encadrer.
Ouais, mais Hélin, est-ce qu'ils seront aussi difficiles ces gamins jeunes dealers lorsqu'ils vont se retrouver avec des gamins plus classiques et justement sortis de leur environnement?
Ah, vous allez mélanger les deux.
Bah évidemment que vous mélangez les deux. Ah bah, c'est facile de faire le caïd dans votre quartier quand tout le monde est à peu près sur le même registre. Mais quand vous êtes, quand vous arrivez, vous êtes le seul parmi 800 élèves à l'internat. Il y a un moment où bah c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, vous êtes sorti de votre environnement, vous êtes obligé de faire vos devoirs si vous avez des heures de colle.
Vous avez le dernier iPhone, vous avez le dernier Nike. Vous avez ce que vous voulez parce que vous gagnez 200 balles par jour. Et le petit gamin qui va être de parents qui travaille et qui va se retrouver en face de ça, c'est quoi son poids?
Mais c'est quoi son poids? Non mais d'accord, en fait, il n'y a pas que l'argent. Et en même temps, si on arrive à réinsérer ces gamins dans la société...
Malheureusement, à cet âge-là, je suis désolé de le dire, mais oui, entre 14 et 17, voire 14 et 20 ans, il n'y a que l'argent qui leur compte. Il n'y a que ça.
Oui, mais vous serez dans un environnement, quand vous êtes dans un internat à la campagne, je veux dire, votre argent, vous ne le dépensez pas facilement. Hein. Les tentations sont rares, hein, donc on n'est pas en pleine ville et tout.
Bien
donc,
sûr, bon, après, il y a toujours Internet. Hein. On peut toujours,
non, mais ça, j'entends. Mais ça,
voilà, mais enfin, vous savez très bien
comment c'est tenter quelque chose.
Voilà, non, mais oui, mais bien sûr qu'il faut essayer. Mais je vous dis, malheureusement, on a essayé. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Oui, ça n'a pas été essayé. Mais la légalisation non plus, je suis d'accord.
Un coup de Karcher comme l'avait fait Sarkozy, sauf qu'il nous le fait, là maintenant, à sa façon XXL. Mais ça veut rien dire. Non. Ça veut rien dire. Si, ça va faire augmenter le prix du site à la cité.
Peut-être qu'il y aura moins de consommateurs.
Il y en a 800 qui sont tombés, alors du coup, on va faire augmenter le site. Mais c'est tout. Mais... ça ne va rien faire d'autre. C'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. On a tout essayé.
Eh ben oui, mais voilà. Alors là, écoutez, voilà. Encore une fois, on n'a pas essayé la légalisation. Vous en parliez. On n'a pas essayé les internats. Et puis on verra bien si un, ça voit le jour, et puis deux, les résultats dans quelques mois. Merci beaucoup, Hélin, d'avoir été avec nous. Comment ça réagit sur la Pierre MC Rémy?
Il y a de nombreux messages. Ça réagit beaucoup, notamment ce message de Nella qui nous dit: moi, je suis entrée dans un milieu éducatif fermé. Je pense qu'elle veut parler d'un centre éducatif fermé. Elle y est passée. J'ai commencé là-bas à fumer, à boire et à faire n'importe quoi. Donc il faut réfléchir. À un encadrement de ces jeunes qui pullulent dans le marché de la drogue, mais il faut absolument les encadrer avec des personnes compétentes.
Et encore une fois, dans les centres éducatifs fermés, ce ne sont que des jeunes délinquants, tandis que dans un internat,
des gens formés pour s'en occuper.
Mais dans un internat, en fait, tu as tout type d'élèves. Tu as le mauvais élève en décrochage, et donc les parents disent on va le mettre en internat, ça va le faire bosser. Le très bon élève qui, lui, veut trouver les conditions d'excellence en internat plutôt que dans son école, il y a un peu de tout, quoi.
Mais leur montrer un autre monde.
Bah, c'est ça aussi.
Que leur monde de cité, c'est ça le truc. Et il y a des gamins qui peuvent tomber amoureux de la campagne, bordel.
Oui, alors là,
mais on ne sait pas. Mais de toute façon, si on n'essaye pas de les mettre dans un autre univers, ils ne peuvent pas découvrir cet autre univers.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Denis Jacob. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT. Bonjour, Denis Jacob.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous la trouvez comment, cette idée d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous y attendiez?
Non, je m'y attendais pas, pour tout vous dire.
Ben nous non plus, vous savez.
C'est une idée qui est portée par le gouvernement, mais une fois de plus, c'est une mesure parmi d'autres qui s'inscrit dans lutter contre les conséquences de trafic de stupéfiants et pas les causes. Donc moi je dis oui, pourquoi pas.
Je vous sens pas très chaud.
Mais non, parce que moi j'ai une autre position, Estelle. Je crois qu'on a déjà pu débattre ensemble sur ce type de sujet. Moi j'ai un autre débat là-dessus. Les opérations Place Nette, parce qu'on repartons du début. Bon, c'est bien parce que ça redonne du sens aux policiers dans leur action au quotidien. Il faut montrer qu'on est là, qu'on intervient, qu'on essaye d'endiguer ce trafic de stupéfiants, qu'on rassure la population, qu'on essaye de réinstaurer une sécurité. Mais là aussi, on traite les conséquences et pas les causes. Alors là, on est dans un affichage politique, donc c'est de la com, clairement. Faut pas nier. Mais derrière, il faut travailler sur le fond. Et le fond, c'est quoi? C'est de ne pas considérer les policiers comme les pompiers de la société. On ne va pas régler tous les maux de la société auxquels on est confronté. Et ce qui manque dans ces opérations Place Nette, c'est des mesures d'accompagnement.
On les envoie en internat.
On
les exfiltre, c'est pas pareil.
On est dans la sanction parce qu'on est à chaud, il faut régler le problème, il faut interpeller les délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, mais c'est beaucoup plus vaste et complexe. Tout d'abord, les réseaux internationaux. La drogue, elle n'est pas fabriquée en France, elle arrive bien à l'étranger.
Mais là, c'est un combat d'une autre ampleur. C'est sûr que c'est plus simple d'envoyer un gamin en internat, mais vous ne croyez pas.
Mais là, Estelle, on s'attaque au bout de la chaîne.
Et non, mais j'entends.
En s'attaquant au bout de la chaîne qu'on réglera le problème. Donc, les opérations Place Nette, mais à côté, il faut des mesures d'accompagnement social, économique, de politique de la ville, social. Déjà, si on prenait en charge les gamins Les gamins qui sont dans les trafics aujourd'hui, notamment les mineurs, ce sont les guetteurs. Ce sont des gamins qui sont en déshérence, qui sont déscolarisés, sur lesquels l'autorité parentale n'a plus aucun poids, qui n'ont plus aucun repère. Ils gagnent de l'argent. Quand ils ramènent de l'argent, ils gagnent plus que leurs parents qui travaillent tous les mois. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on reprenne en charge ces gamins.
Oui, mais il faut aussi les rescolariser, vous êtes bien d'accord, Denis Jacob. À un moment, il faut bien faire quelque chose.
Mais bien évidemment, et ça, c'est le travail de l'État par des mesures d'accompagnement socio-éducatif.
C'est ce que propose Emmanuel Macron.
Quand ils sont... mettre des internats, ok, mais qu'est-ce qu'on va y faire dans des internats?
Travailler à l'école.
Ça, d'accord, mais l'autorité parentale, on en fait quoi? On n'est pas là pour se substituer à la responsabilité de l'autorité parentale.
S'il n'y a pas d'autorité parentale, l'État, il est là pour ça. Et l'école est là pour ça aussi. Malheureusement, ça devrait pas être le cas, mais ça, parce que c'est la réalité.
Mais il faut peut-être mettre les parents devant de leurs responsabilités.
Une femme seule qui travaille souvent la nuit, qui a trois enfants, mais qu'est-ce qu'elle peut faire comme
T'as aussi des femmes seules dont les enfants réussissent très bien à l'école.
Monsieur Jacob, que 60% lors des émeutes, 60% des gamins qui avaient été arrêtés étaient gamins qui n'avaient pas de père présent.
Non, mais écoutez, moi, bien évidemment que j'entends ce que vous dites, mais il faut aussi qu'on cesse de distiller ce message lancinant que j'entends depuis des années de la politique de l'excuse. Toujours trouver des excuses. Ah ben oui, c'est des pauvres petits. Oui, c'est des pauvres petits malheureux. Vous savez, il y a d'autres gamins qui sont des enfants de parents divorcés, qui habitent en milieu urbain. Et tous les gamins d'enfants divorcés ne sont pas des délinquants quand même.
Mais il a raison de le rappeler aussi.
Donc il faut arrêter cette politique de l'excuse. Donc des internats, pourquoi pas, mais à condition qu'on soit véritablement dans une démarche pédagogique socio-éducative pour essayer de remettre des gamins sur les bons rails. Si c'est pour faire des internats façon centre éducatif fermé déguisé, ça servira strictement à rien.
Alors, je voudrais juste, Denis Jacob, qu'on prenne en ligne Philippe qui nous appelle de Ligny-les-Aires dans le Pas-de-Calais et qui est surveillant en internat, justement. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, ça vous dirait d'accueillir des jeunes dealers, justement, dans vos internats?
Alors, oui et non. Non, pas actuellement. Il faut tout ce que vous dites, il faut une structure, il faut des gens dont c'est le métier. On va en faire quoi de ces jeunes? On a encore moyen de pression sur eux. Ils ne travaillent déjà pas à l'école. Et on risque de contaminer le reste aussi de mes internes. Donc non, actuellement comme ça, non. Moi je pense que c'est encore un effet de manche du gouvernement. Il a sorti ça, il a une idée comme ça, on sort. On n'a pas pensé aux conséquences derrière. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le policier a dit juste avant. Non, je pense pas.
Mais Philippe, on est bien d'accord qu'en internat, vous avez aussi des élèves qui sont en très fort décrochage scolaire. Donc a priori, les jeunes dealers aussi, parce que a priori, s'ils sont dealers, c'est qu'ils vont pas beaucoup à l'école. Vous savez faire avec ces élèves qui sont en décrochage.
Bon, c'est un cas à part, c'était un lycée privé.
D'accord.
Oui, donc je vais pas faire la guéguerre privée et publique.
Bien sûr.
Mais on a au moins les parents qui sont derrière.
Ouais. D'accord.
Okay, je comprends. Moi, si le gamin, ça va pas avec le gamin, je vais appeler ses parents, on va discuter, on a beaucoup de discussions, ça va s'arranger. Là, vous allez mettre un gamin c'est même plus un décrochage scolaire, là, c'est un énorme décrochage scolaire, ça va pas aller à l'internat, il va pas respecter les règles, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour le faire rentrer dans le droit chemin?
Et pour aller dans votre sens, Philippe, c'est pas que des gamins qui sont en décrochage scolaire, c'est multifactoriel. Il y a une perte de valeur totale. Enfin, ils partent de très très loin, donc ils vont avoir besoin d'un accompagnement spécialisé. Et pour moi, les internats tels qu'ils sont actuellement, vous n'êtes pas équipés pour ni formés pour.
C'est là où je veux en venir. L'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, mais encore une fois, il faut du personnel. Il faut qu'on soit formé pour ce genre de
évidemment.
J'ai eu quelquefois des gamins qui fumaient, qui revendaient, j'en ai pas encore eu, heureusement. Donc là, actuellement, si ça reste comme ça, je vais vous dire non. Maintenant, oui, ça peut être un beau challenge à relever. Ça, je suis d'accord avec vous.
Mais encore faut-il être formé. Et c'est vrai que c'est une idée qui a été lancée comme ça. Elle aurait peut-être pu être d'abord concertée avec les policiers, les syndicats de policiers, avec également tous ceux qui travaillent en internat.
Créatif comme le président de la République.
Non mais moi ça m'énerve ça.
Non mais dès qu'il a travaillé, sa gueule. Fred, il a pas travaillé, il a balancé le truc.
On n'est pas tous en même temps.
On a le droit de proposer des choses. Moi je trouve que n'est pas mauvaise.
En les travaillant.
N'importe comment, quand
les travaillant.
Il y a une heure de grande écoute.
De toute façon, c'est mort. Allez, c'est fini, c'est mort.
Non, mais Frédéric, il y a des faits. On a la mémoire courte. Septembre 2021. Emmanuel Macron se rend à Marseille pour annoncer un grand plan Marshall pour la ville de Marseille. 1,5 milliard d'euros de budget débloqué par l'État pour la ville de Marseille.
Il est où, ce milliard?
Là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est en cours d'élaboration et par la Chambre régionale des comptes qui étrille ce plan voulu par le chef de l'État. Ce document, il est encore que provisoire, je le dis, hein, mais il dit notamment que le plan, à l'heure actuelle, septembre 2021, on est en 2024, ne serait toujours pas, il n'y aurait toujours pas de cadre permettant de fixer clairement les objectifs.
C'est à peine
s'il y a une seule sous-préfète qui vient récemment d'être nommée pour dresser un premier bilan de ce plan.
Une sous-préfète pour 1,5 milliard, dites donc, l'argent est bien utilisé.
Belle promotion.
En tout cas, merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été notre invité sur ce débat. Merci Philippe. On termine avec des messages, Rémi, et le résultat de notre consultation.
Allez, ce message de Sylvain qui nous dit « Mon fils va probablement intégrer à la rentrée prochaine un internat au Sable d'Olonne, dans un lycée, zone plutôt privilégiée. Mais je n'imagine pas qu'il partage sa chambre avec un gamin, un problème sorti de trafic de drogue. Je suis désolé. C'est une bonne idée, mais ça va importer les problèmes là où il y en a pas. »
C'est vrai que j'avais pas pensé au dortoir, et évidemment. Dans un instant, écoutez, on va parler de golf. Voilà, la création d'un golf qui fait polémique dans les Pyrénées orientales. Est-ce qu'il faut arrêter de construire des nouveaux golfs? Et puis Rémi, j'ai complètement zappé votre sondage.
Pas de problème, faut-il envoyer des jeunes dealers en internat? C'est le oui qui l'emporte. Tiens,
ah bon,
ça va te faire plaisir. Ah bah, oui, super. Pour 66% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Le peuple est
avec
moi.
Dans un instant, on parle de golf dans STMD sur RMC. RMC Story sera juste après cette courte pause. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 8h34, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Pierre-Édouard Magnan, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser à la polémique du jour. Ça se passe à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales, où 4000 personnes ont manifesté ce week-end contre le projet de création d'un nouveau golf. On rappelle que les Pyrénées-Orientales sont une région durement touchée par la sécheresse. Mais Rémi, concrètement, ça représente quoi le golf en France?
Un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros annuels, un marché en plein développement. Il y a aujourd'hui 750 parcours de golf dans le pays, c'est trois fois plus qu'en 1985. Une dizaine de clubs ouvrent leurs portes chaque année en France, majoritairement de petits équipements, notamment en zone rurale où se trouvent 45% des golfs. Le nombre de pratiquants, lui, est passé de 600 000 en 2007 à plus de 800 000 aujourd'hui. La Fédération française de golf l'affirme, nous sommes désormais passés d'un sport d'élite à un sport de loisir. Une évolution qui s'accompagne de polémiques, notamment sur l'arrosage. Il y a deux ans, lors d'une série de périodes de canicule, en 2022, donc, les dérogations d'arrosage qui avaient été accordées au golf avaient provoqué la colère des écologistes. Pourtant, la Fédération française de golf l'affirme, lors des fortes chaleurs, seuls 1 à 2% environ de la surface totale des parcours est arrosée. Et sur les 15 dernières années, les golfs auraient réduit de 20% leur consommation d'eau.
Alors, faut-il arrêter de construire de nouveaux golfs en France, Fred Hermel?
Bien sûr que non, il ne faut pas arrêter. Il faut arrêter ce diktat des écologistes, des éco-terroristes, comme pour certains d'entre eux, comme l'a dit Gérald Darmanin. Franchement, moi j'adore des écologistes qui sont contre les espaces verts. Je ne comprends pas, parce que le golf, c'est de la nature. Je suis désolé, un golf, c'est de la nature.
Aménagé,
bah oui, mais c'est de la nature. Attends, mais c'est vachement beau, un golf.
Ça, je suis d'accord.
Mais on va dire tout ce que veut, c'est pas bétonné, on bétonne pas une plage. On met du verre, c'est propre, c'est bien, ça crée de l'emploi, etc. En plus, aujourd'hui, beaucoup d'eaux usées sont retraitées et utilisées pour l'arrosage des golfs. Franchement, je ne comprends pas.
Après ce golf-là, le problème, en vrai, je peux te suivre, mais sur ce golf-là, il y a deux autres golfs sur un rayon de 10 km.
Alors, oui, mais la question, c'est qu'on ne construit pas un golf sans autorisation. Permis de construire, il y a des règles à respecter. Si ce golf ne respecte pas les règles fixées par l'État, il va jamais ouvrir, il n'aura pas les autorisations. Donc c'est pas un truc sauvage, c'est quelque chose autorisé par l'État. Et en plus, de toute façon, on va pas se cacher les choses. Qu'est-ce qui gêne en fait ces gens-là? Ces gens-là ne pensent pas à l'environnement.
Mais c'est 4000. Hein.
Comment?
Ils étaient 4000.
Oui,
quand même,
mais ils ne pensent pas. Mais non, mais c'est pas ça. Ces gens-là ne sont pas verts, ils sont rouges. C'est-à-dire pour eux, le golf, c'est le symbole du capitalisme. Donc ce n'est pas une lutte contre en faveur de l'environnement. C'est une lutte contre la société de consommation, contre le système capitaliste. C'est ça, bien entendu, parce que je suis persuadé que si ça avait été, par exemple, c'est très bien aussi, hein, un élevage de chevaux, par exemple, sur des grandes, sur un grand truc, personne n'aurait rien à redire. Bon. voilà, parce que c'est plus populaire, etc. Mais un golf, c'est le symbole totalement idiot, parce que Rémi l'a bien rappelé, que le golf aujourd'hui, c'est devenu, c'est plus un truc de riche, hein. C'est un truc.
Ça s'est beaucoup démocratisé, bah, effectivement. Emmanuel Dancourt, est-ce que vous seriez pour arrêter justement la création de nouveaux golfs au nom de l'écologie?
Moi, je suis pour le vivre ensemble. Il y a des moyens de créer des golfs comme à La Rochelle. Ils ont fait un golf écologique. Tout a été prévu avant pour que ce soit un golf qui soit avec des plantes locales, qui demande un entretien raisonné, qui n'utilise pas golfs, hein. Trop d'eau. Non. La plupart des golfs, ils ont été créés avant et l'écologie leur tombe dessus.
Mais là, qu'ils sont créés, là. Donc, c'est une nouvelle règle.
Ce qui se passe avec le golf dont on parle là, on est dans une région qui est sur une tension très très rude au niveau de la sécheresse. On est en plein contexte de réchauffement climatique. Finalement, quels sont les trois griefs qu'on reproche au golf? On leur reproche une consommation d'eau excessive, je vais y revenir, donc un gaspillage de la ressource.
C'est les eaux usées.
On leur non.
Ah bah sur celui-là, attends, si, c'est les eaux usées.
Attends, je vais y revenir. On leur reproche un usage excessif d'intrants, donc les pesticides et les engrais. Donc quand tu dis c'est de la nature, c'est bien gentil, c'est de la nature qui est quand même très polluée. Et on leur reproche aussi, et ça vous n'en parlez pas, d'une appropriation foncière. Je vais revenir déjà sur l'histoire de l'eau, qui a priori est le plus gros débat ici. L'histoire de l'eau, ils disent, il faut savoir qu'un golf, c'est en moyenne la même consommation d'eau qu'une ville de 8000 habitants, juste pour qu'on se rende compte. Et là, ils disent, oui, on utilise des eaux usées. Il y a plein de golfs
qui viennent de la station d'épuration.
Qui vient de la station d'épuration, oui, mais en fait, ça suffit pas. Il faut savoir que ça ne suffit pas. Ou alors, il va falloir qu'on se lave encore beaucoup
là,
plus.
Là, c'est 100%
et qu'on fasse beaucoup plus pipi.
Là, c'est 100% des eaux usées.
Eh ben, ça suffit pas sur les golfs. Et en plus, il y a un truc aussi au niveau du golf, c'est que les techniques de club sont en train de s'améliorer. Résultat, les balles partent avec beaucoup plus de puissance et donc beaucoup plus loin. Donc, les golfs, en ce moment, on est en train d'augmenter leur surface de 10% pour que les balles puissent atterrir sur le golf et non pas chez les voisins. Donc, on a tendance à rallonger à ragrandir les golfs actuellement dans une période où on manque d'eau et on nous dit l'été. Enfin, moi, je suis en Bourgogne, qui est quand même pas la région la plus connue pour sa sécheresse. Ça fait plusieurs étés qu'on n'a pas le droit de changer l'eau des piscines, qu'on n'a pas le droit de laver les voitures, qu'on n'a pas le droit d'arroser, qu'on n'a pas le droit d'avoir une piscine hors sol. Et en même temps, on nous dit.
Oui, mais quand t'arroses ta voiture, tu le fais avec de l'eau potable. Donc, en fait, c'est pas du tout la même chose.
T'as pas le droit. Nous, ça fait des années
l'eau du robinet chez toi, et donc c'est de l'eau potable. C'est pas du tout la même chose que de l'eau qui vient de la station d'épuration.
Et je reviens aussi, ce qu'on propose quand je parlais de que les golfs prenaient du terrain foncier immobilier, en fait, pour qu'un golf il marche, faut qu'il y ait de l'immobilier autour.
Bah oui, donc ils vont créer des logements aussi autour.
Rentable. Bah donc il y a toute une spéculation immobilière financière.
Mais on va pas reprocher au golf de créer des logements. Enfin, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez de logements.
Non, mais ils vont entrer en concurrence en fait avec d'autres usages du sol et de l'eau. C'est ça que je suis en train de dire.
On ne construit plus rien, on ne fait plus rien.
Si, on fait comme La Rochelle.
Voilà, les nouveaux golfs, ils sont écolos. Les anciens, je veux bien être d'accord avec vous, mais les nouveaux, souvent ils sont autosuffisants en eau. D'ailleurs, parce qu'ils ont créé. Alors, je sais que les mégabassines ne sont pas très en hauteur de santé, mais ils ont parfois leur propre réserve d'eau. Mais j'entends. Mais les nouveaux golfs sont évidemment, je veux dire, beaucoup plus écologiques que les anciens.
Ils travaillent avec la Ligue de protection des oiseaux.
On parle de travailler avec les associations.
On parle d'un nouveau golf.
De nature.
Alors,
comme Estelle l'a dit, il y a deux golfs à côté.
Pierre-Edouard Magnan. Oui, ça c'est évidemment Pierre-Edouard Magnan.
Oui, Estelle.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On construit ou on construit pas?
Alors, sur le cas de ce golf-là, effectivement, on voit d'abord sur plein de sujets, comme sur les golfs, qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Et l'exemple de La Rochelle en est une belle démonstration. Après, je répète, je pense qu'il faut retenir le chiffre qu'a donné Emmanuel. Un golf, c'est la consommation d'eau d'une petite ville de 8000 habitants.
C'est ça.
Ce qui, quand même, effectivement, en période de manque d'eau, en tout cas, ça ne peut pas être quelque chose de prioritaire. Après, sur ce golf-là, je tiens à dire que l'opposition n'est pas réservée aux éco-terroristes ou aux pastèques auxquels tu faisais allusion avec le rouge et le vert, mais que l'opposition, elle va effectivement des écolos et de la gauche militante jusqu'au parti Horizon. Il ne semble pas que le parti d'Edouard Philippe soit un
On n'est pas sur une gauche dure. Quoi.
Globalement. Donc, il y a quand même bien une problématique tout à fait spécifique. En fait, il n'y a que Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui soutient ce projet de golf d'un point de vue politique sur le territoire.
Ah, c'est l'extrême droite. C'est ça.
Donc, attends,
je me disais aussi.
Tu n'as pas dit ça.
Je veux dire qu'il y a une opposition politique générale sauf un parti politique. Point. C'est pas le sujet. Donc, ça veut dire quand même qu'on a face, effectivement, sur ce golf, un véritable problème. En plus, dans un endroit où la problématique de l'eau est particulièrement saillante. Je veux dire qu'ils sont toujours en pénurie d'eau à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Et donc, est-ce que construire un golf, et je répète, moi j'ai un frère qui
fait du
golf.
Alors qu'il y en a deux à côté.
J'ai pas de problème, j'ai un frère qui fait du golf. Donc voilà, mais au demeurant, certes, le golf s'est démocratisé, mais on passe de 600 à 800 000, on n'est pas tout à fait non plus sur un sport de basse. C'est quand même pas le football, le rugby ou le basket. Donc je veux dire, est-ce que c'est vraiment l'urgence absolue d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, de construire un troisième golf dans un périmètre de 10 bornes? Je n'en suis pas certain. C'est sans doute pas le plus grand scandale écologique et social de notre pays. On est d'accord, mon cher Fred. Cela dit, voilà, et sur l'aspect logement, j'imagine bien que les logements, c'est pas là où on a le plus besoin de logements, c'est notamment des logements et à loyer modéré et à loyer accessible. Oui. Je ne suis pas certain que les complexes immobiliers construits autour des golfs visent spécifiquement ce type de population.
Là, je suis assez d'accord avec toi. Il y a peu de chances que ce soit des HLM, effectivement, qui vont border le golf. On a Julien, tiens, qui nous appelle de Charente et qui est ancien directeur de golf, justement. Bonjour, Julien.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous, Julien. Alors évidemment, ce golf pose problème. On l'a dit, région touchée par la sécheresse. Deux autres golfs dans un rayon de 10 km. Mais le golf en général, Julien, est-ce que pour vous, c'est anti-écologique ?
Eh ben justement, pas du tout. En fait, à mon sens, alors il y a le golf. Il y a beaucoup qui ont été construits dans les années 80-90. Mmh. Avec des notions un peu sociales aussi du club. On a voulu faire d'un sport très populaire dans le monde, un sport un peu élitiste en France, et on en paye encore le prix aujourd'hui.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on est un sport qui représente énormément de licenciés, qui est dans le top 5 des sports licenciés en France. Et il y a une transition qui se fait. Le problème de la gestion de la nature et de l'environnement, il existe dans le golf depuis des années. Les chefs d'équipe terrain, les chefs jardiniers, c'est leur préoccupation première. La sauvegarde de l'environnement, des espèces qui y habitent, de l'environnement. On avait cette volonté d'un golf vert, aujourd'hui qui n'existe plus. On est sur cette transition écologique, elle est amenée, elle existe. Vous avez cité le golf de La Rochelle, vous avez le golf aussi de Manville, dans les Hauts-de-Provence, qui a pu se construire par une implantation qui respecte les normes locales, la géologie, la géographie de l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment, on est dans une transition aujourd'hui plus avancée, qui doit être faite plus rapidement. Mais le golf est vraiment orienté dans cette démarche éco-responsable.
Et c'est vrai que quand on se parle, moi je viens de m'y mettre, hein, donc là pour le coup, et je trouve ça assez extraordinaire parce que quand vous vous baladez, je veux dire, c'est vraiment un moment où jamais vous avez votre téléphone portable, vous restez 2-3 heures, vous êtes dans la nature. Alors j'entends bien qu'effectivement c'est une nature, quand vous êtes sur un green, il n'y a pas beaucoup d'arbres, vous voyez, bon,
mais c'est
vert, c'est machin, et c'est quand même un moment, c'est paisible, vous sortez totalement de la ville, etc. Et c'est extrêmement agréable et ça s'est beaucoup démocratisé, notamment en termes de prix. Juste, Julien, dernière question sur l'eau que vous utilisez dans les golfs, ce sont des eaux usées ?
Alors oui, on utilise, en tout cas dans les golfs où j'ai été, hein, quand j'utilise, c'est une transition qui existe dans tous les golfs, vous avez plus de 700 golfs en France, donc plus de 700 situations différentes, bien avec sûr. Plus ou moins d'arbres, et vous en avez beaucoup dans la région parisienne, des très beaux golfs bien boisés. Aujourd'hui, l'eau, on utilise une eau qui est impropre à la consommation, qui est utilisée là, et qui va même dans des situations de restriction du sud, que je connais très bien aussi, où on va arroser que 1% de la surface du golf. Pourquoi ? Parce qu'on va garder justement ces greens qui ont besoin d'une hygrométrie particulière, qui sont les plus durs à récupérer, mais tout le reste du parcours n'est pas arrosé dans ces situations-là. On a des bassins de rétention qui existent, qui sont faits de façon naturelle, avec de l'argile. Alors, on n'est pas sur la méga-bassine agricole.
Ça ressemble à ça, quoi.
Sans vouloir aller chercher un peu les débats d'opposer les situations, il y a moins de questions sur l'arrosage des terrains de foot municipaux
qui sont en fait tout
à l'heure. Et il n'y a pas non plus de questions qui a été soulevée par le maire de Cannes, justement, sur les réseaux d'eau qui ont des fuites monstrueuses sur l'eau potable. On fait nos besoins dans de l'eau potable, et ça, c'est des questions qui me paraissent plus importantes dans la sauvegarde de l'eau en France.
Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions. Et effectivement, chaque commune a son terrain de foot et jamais on se pose la question de l'arrosage du terrain de foot. Et si vous multipliez, les surfaces de tous les terrains de foot en France par rapport aux surfaces des golfs, à mon avis, on est au-dessus sur le football.
Les terrains de foot chez moi, ils sont pas du tout arrosés. Hein. Pas du tout.
S'ils sont verts dans les Pyrénées-Orientales, c'est qu'ils sont arrosés. Et a priori, ils ont assez peu de bassins de rétention.
La population concernée doit être quand même meilleure pour un terrain de foot que pour un terrain de golf.
Ça, c'est fort possible. Faut-il interdire la construction de nouveaux golfs en France, Rémi ?
Mais c'est le nom qui l'emporte d'une courte tête. J'allais dire, c'est la majorité, hein, mais 57% de ceux qui sont branchés sur nos réseaux sociaux. Non.
Si, c'est la marge d'erreur.
On aurait continué le débat, je veux dire.
On était à 60% après le très bon témoignage de Julien.
Dans un instant, Anthony Morel qui va nous parler de nouveaux robots aspirateurs incroyables et qui va enfin exaucer mon rêve. Ça y est, ça fait 3 ans que je l'attends.
C'est vrai.
L'aspirateur capable de monter les escaliers existe désormais. On en parle dans un instant.
Alléluia.
Anthony Morel, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est le moment d'accueillir Anthony Morel dans Estelle Midi, les midi 51. On n'arrête pas le progrès, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Ah. Alors, on a l'impression que c'est un robot mixeur, en fait, c'est un aspirateur.
Vous imaginez le truc.
Extrêmement désagréable. Et évidemment, donc, nous allons parler aspirateur. Et là, Anthony, vous avez réalisé mon rêve. Ah, vous avez trouvé l'aspirateur qui monte les escaliers. Je le cherche depuis, depuis ma naissance.
Mais je sais. Moi, je fais les chroniques pour vous, vous savez. Donc, je peux vous faire plaisir, évidemment. Et depuis le temps que vous m'en parliez de cet aspirateur robot capable de monter les escaliers, eh ben, ça y est, je vous l'ai trouvé. Il va bientôt sortir, figurez-vous. Il s'appelle l'Ascender. Donc, c'est
L'ascension.
Exactement, l'ascension, tout à fait. Donc, ça ressemble à un aspirateur robot classique, hein, forme carrée, assez plat. Sauf que quand il arrive devant une marche ou devant un escalier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites pattes robotiques qui se déploient et qui vont lui permettre, eh bien, de franchir l'obstacle. Alors, lentement, hein, il y va tranquille parce que c'est quand même un peu compliqué.
On s'en fout, on n'est pas là quand
on est pas là. On fait ça exactement. Vous faites ça quand vous êtes au boulot. Il y a pas de souci. Et en fait, il va aspirer en même temps. Hein, quand il passe sur une marche, il aspire et ça lui permet de passer du rez-de-chaussée au premier étage. Comme ça, le problème est réglé. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les robots aspirateurs se sont beaucoup améliorés ces dernières années, que ce soit sur la détection des obstacles, que ce soit sur la capacité à cartographier une pièce, la réduction du bruit, le fait d'aller dans les coins. Mais il manquait un truc. C'était quand on a une maison avec un étage, il y a un moment, le robot il est coincé. Ouais. Ou alors quand il y a une marche, et ben là, il est capable de passer. Il n'est pas encore sorti, on peut le précommander pour l'instant.
C'est combien ?
Alors ça coûte, c'est cher, hein. Par contre c'est autour de 1300 euros.
Donc, ah quand même hein.
Ah bah oui, bah, c'est la Rolls un peu de l'aspirateur là, que je vous présente aujourd'hui. Hein,
mais il monte les escaliers, mais est-ce qu'il les descend ?
Alors il les descend aussi.
Ouais, vaut mieux. Ouais.
Je préfère quand même.
Il aspire toute la marche. Alors si, il y a un petit point faible quand même. Parce que sur les démonstrations, il faudra le tester en vrai. Mais on le voit sur des escaliers bien droits, bien en colimaçon.
Moi j'ai des escaliers qui tournent.
Ouais, là je pense que c'est plus compliqué.
Voilà, vous n'avez pas exaucé mon.
Ah non, bah attendez, vous ne m'aviez pas précisé l'aspirateur robot pour les escaliers en colimaçon.
Ça paraît logique.
Oui, mais enfin bon. Non, mais peut-être que je suis mauvaise langue parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas testé en vrai. Donc peut-être que ça fonctionne aussi dans les escaliers en collimation. Là, sur les images de démo, on le voit sur des escaliers bien droits. C'est tout ce que je dis.
Anthony Morel, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nos aspirateurs vont devenir de plus en plus intelligents. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir leur parler aux aspirateurs. Il y a un autre modèle qui a été créé par des anciens
amis.
Je connais certaines personnes qui le font déjà.
Oui. Voilà. Oui, alors c'est pas possible. C'est
pas bien terminé, d'ailleurs.
Mais là, tu pourras lui parler pour lui donner des ordres. C'est ça qui est le but. Pour l'activer. Voilà, viens là, je viens de manger, viens nettoyer en dessous de la table. Et le robot arrive et il se déplace. Petit assistant vocal intégré. Des caméras aussi, 5 caméras dans cet aspirateur robot qui lui permettent d'analyser son environnement, donc de détecter des obstacles, ça il n'y a pas de problème. Il va pouvoir, il sera plus coincé par exemple s'il y a des fils. On va pouvoir aussi s'en servir il va aussi être capable de détecter, je me perdais un petit peu, les différents types de tâches. Si y a par exemple une tâche dure, il va pouvoir passer en mode serpillière. Si c'est une tâche plus facile. Ouais, exactement. Donc il peut en fait adapter, si vous voulez.
Même sur le parquet ciré, non vitrifié.
Il peut faire en fait la différence entre les différents types de sol et les différents types de tâches et adapter le mode de nettoyage en fonction de ça. Ça c'est aussi malin et c'est ce que permettent les caméras. Alors avec un petit bémol.
J'ai tellement envie d'être à demain.
Mais je sais. Alors après le truc c'est les caméras, ça peut aussi permettre à l'aspirateur de filmer ce qu'il y a chez vous. Et il y a déjà des fabricants d'aspirateurs, c'est le bémol, qui ont dit. Nous, ça nous intéresse.
Dans le sol, bon.
Ah ouais, mais enfin, non, parce que t'as des caméras qui filment, par exemple, ton intérieur et qui vont savoir la marque de ton canapé. Et donc, on va pouvoir vendre ces informations. Ah bah oui, il y a des tiers qui vont pouvoir te cibler avec de la pub pour te dire est-ce que vous voudriez acheter la table avec le canapé. Bah oui.
Ouais, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Moi, du moment qu'il monte les escaliers et que je peux lui donner des ordres, écoutez, je suis une femme comblée.
Et bah alors, ça va.
Et toujours à 1300 euros.
Ouais, celui-là aussi, les chers. Non, là, c'est vraiment les Rolls des aspirateurs que je vous ai présentés parce que c'est la grande nouveauté, mais ça va se démocratiser ensuite au fil du temps, évidemment.
Merci beaucoup, Anthony Morel, tous les jours dans Estelle Midi, midi 50 et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on va parler de la pollution qui baisse dans les grandes villes. Est-ce qu'il faut abandonner les ZFE pour les véhicules critères 3? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.